travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Il y a une grande variété de tunnels qui ont été découverts ici dans cette zone. L'un d'eux, qui a été repéré récemment, faisait 800 mètres de long. Il était assez vaste pour laisser passer un petit véhicule et ressortait juste au milieu d'un bâtiment industriel côté américain.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis. Ce mot de Porfirio Diaz, qui fut le président mexicain de 1876 à 1911, est resté fameux dans son pays. Et on gage que celui-ci, par les temps qui courent, ne le juge malheureusement pas dépassé. La frontière de 3200 km qui sépare les deux nations s'est imposée emblématiquement au cœur de la dernière campagne présidentielle. Donald Trump, en effet, obsédé par l'immigration venue du Sud, a annoncé de meeting en meeting qu'il entendait faire construire, aux frais d'ailleurs des Mexicains, un grand et beau mur, je cite, un grand et beau mur qui assurerait la parfaite maîtrise des États-Unis sur la circulation des hommes et des marchandises d'un côté à l'autre de cette séparation désormais infranchissable. Et après son élection, le président américain n'a pas cessé de rappeler cette promesse et d'affirmer qu'il y serait fidèle. Voilà bien qui appelle une rétrospective propre à replacer cette question dans la longue durée, celle d'une frontière qui fut longtemps mouvante et disputée, au cœur depuis trois siècles de tous les affrontements concrets et symboliques. Celle d'un enjeu qui, par-delà lui-même, concerne directement l'histoire très heurtée des relations entre les États-Unis et le Mexique, qui, entre chocs réitérés et conciliations provisoires, ont marqué en profondeur le destin des deux peuples. Emmanuel Pérez-Tisserand, maîtresse de conférences à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, spécialiste de l'histoire de l'Amérique du Nord, va nous faire profiter de sa compétence avérée dans ce domaine, un domaine haut en couleurs où se mêlent inextricablement les passions et les intérêts.
I think we need the wall. When I ask the people that know more about the border than anybody, how important is the wall, and they tell me it is absolutely vital. It's maybe the most important tool that they can think of. We're going to build the wall. We have no choice. We have no choice. Build that wall. Build that wall. Build that wall. Build that wall. Build that wall.
Build that wall. J'ai pas besoin, j'imagine, Emmanuel Pérez-Tisserand, de traduire ce qui veut dire construisez ce mur, construisez ce mur. C'est un extrait du discours de Donald Trump dans un meeting de sa campagne présidentielle le 25 mai 2016 en Californie, à Anaheim. On est assez loin du temps où John Kennedy, son prédécesseur, pouvait dire à propos du Mexique « La géographie a fait de nous des voisins, la tradition des amis et l'économie des partenaires ». La tonalité est quelque peu différente, non ?
La tonalité est différente, le ton ici est très agressif par rapport aux voisins mexicains et rappelle la citation que vous avez donnée d'entrée de jeu sur le mauvais destin du Mexique d'être voisin des États-Unis, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Et même aujourd'hui, le Mexique est un partenaire très important, commercial, entre autres, mais aussi diplomatique, des États-Unis. Le mur que souhaite construire Donald Trump, qui est, disons, en cours d'élaboration, puisqu'il vient de proposer, de dévoiler, disons, des prototypes qui sont destinés à être des morceaux du futur mur sur toute la frontière. Il veut mettre une ligne de séparation entre ces deux pays, comme s'il fallait les séparer absolument, à un moment, au contraire, où aujourd'hui, mais ça dans une histoire assez longue, les relations entre les deux pays et les circulations entre les deux pays sont très importantes, comme en témoigne le traité ALENA, hein, ce traité de l'Amérique du Nord, qui renforce et favorise le déplacement, la circulation des marchandises d'un pays à l'autre, mais aussi des travailleurs.
Depuis les années 1992-93, et qui d'ailleurs inclut le Canada également.
Oui, qui inclut le Canada. Donc ces circulations, elles ont une histoire sur laquelle on pourra revenir. La frontière n'a pas toujours été ce lieu de passage et de circulation intense, mais ce traité donc qui est à la fois récent, quand on prend une dimension d'histoire longue, mais quand même un certain nombre d'années, il est accusé aussi par Donald Trump, qui veut remettre en cause le libre-échangisme, de ruiner un certain nombre d'emplois aux États-Unis, puisque un certain nombre de marchandises sont fabriquées au Mexique pour être vendues moins chères aux États-Unis. Donc ça, c'est la première dimension, c'est-à-dire une remise en cause de ce traité ALENA, mais aussi, bien sûr, une angoisse par rapport à l'immigration et finalement la mexicanisation, on pourrait peut-être dire aussi la re-mexicanisation des États-Unis, puisque cette zone sur laquelle Donald Trump veut bâtir la frontière, elle faisait partie du territoire mexicain avant 1848.
Déjà, vous nous emmenez dans le passé, nous allons nous y rendre, Emmanuel Pérez-Tisserand. Quelques précisions néanmoins sur l'histoire du mur non construit encore, build the wall. Non, il n'est pas construit. La question financière est importante. Il y a eu l'idée assez farfelue, semble-t-il, chez Donald Trump, mais ce n'est pas le seul sujet où il peut y paraître un peu étrange, ineffable à vrai dire, l'idée qu'on ferait des panneaux solaires sur le mur qui permettraient de le construire à très bon marché.
Alors oui, c'est particulièrement savoureux de la part de quelqu'un qui ne croit pas au changement climatique, donc qui pense qu'il faut encourager davantage d'extraction minière de charbon et de pétrole. Bon, cela dit, comme on est dans une économie qui a de plus en plus besoin d'énergie, toute source d'énergie est la bienvenue, mais bien sûr c'est une forme de déguisement de ce mur. Une autre idée qui peut paraître farfelue, c'est celle de vouloir faire payer le Mexique pour ce mur qui encadrerait cette frontière. Quelques blagues, comme aiment à faire les internautes, disent que les Mexicains paieront peut-être pour ce mur, mais à condition qu'il soit sur la frontière de 1846 et pas sur celle de 1848.
Ah, ça c'est déjà l'annonce de ce que nous allons raconter tout à l'heure sur cette frontière qui est mobile. On peut ajouter aussi qu'avant le président Trump, le président George Bush Jr. avait fait voter en 2006 le Fence Act, un acte instituant une barrière, préconisant l'édification de celle-ci, également de 1000 km au long du pays. Même Hillary Clinton avait voté ce projet.
Oui, donc effectivement, l'idée de construire au moins en partie un mur, elle n'est pas nouvelle. Et il y a déjà un certain nombre de barrières ou d'éléments qui permettent de marquer la frontière aujourd'hui aux États-Unis. On en voit d'ailleurs des photographies. Il y a déjà des parties de la frontière où un mur est déjà édifié. Donc quelque part, c'est un procédé électoral de la part de Donald Trump au départ d'ériger ce mur comme un symbole de sa vision de l'Amérique, une Amérique qui arriverait à se distinguer fortement de ses voisins du Sud, qui viendrait l'appauvrir, la forcer à parler mexicain, etc. Et c'est vrai que visuellement, de manière très sonore, on le voit dans cet extrait où la population présente au meeting s'exclame « Construisons ce mur, construisons ce mur !» C'est un puissant moyen de mobiliser, en fait. C'est un moyen de mobilisation pour Trump, mais cette frontière, elle existe déjà en partie. Par contre, pour la construire intégralement, comme vous le disiez, ça va coûter très cher. On estime le coût entre 15 et 20 milliards. Et donc, même si on y bâtit des panneaux solaires, l'infrastructure demandée pour cela serait très lourde.
Vous nous rappeliez cette plaisanterie. Oui, d'accord pour le mur, à condition que ce soit la frontière ancienne. C'est précisément dans ce passé qu'il faut maintenant que nous nous rendions pour aller chercher les origines de cette barrière d'aujourd'hui qui, si elle avait été définie au début du 19e siècle, aurait eu une toute autre réalité géographique. Alors, rappelez-nous ça.
Oui, alors toute cette zone qui est le sud-ouest des États-Unis et sur laquelle court la frontière, elle a été colonisé par les Espagnols. Ça s'étend du Nouveau-Mexique au 15e et 16e siècle, donc assez tôt après la conquête du Mexique par Cortés, de manière beaucoup plus récente pour la Haute-Californie, ce qu'on appelle la Californie états-unienne, l'État états-unien de Californie, qui a été colonisé à partir de 1769. J'aime bien rappeler à mes étudiants que San Francisco a été fondé en 1776, c'est-à-dire l'année de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. C'est très récent au regard de l'histoire telle qu'on l'envisage.
Il y avait même eu une tentation du côté russe.
Absolument.
De venir. C'était un pays, on l'a un peu oublié, qui a été très largement disputé. Et quand on entend parler un peu actuellement d'une possibilité d'indépendance de la Californie, pourquoi pas ce projet, ce fantasme, cette éventualité s'enracine en fait loin en arrière.
Absolument. D'ailleurs, c'est une des raisons principales de la colonisation de la Haute-Californie. On est très très loin de Mexico. Mais la raison pour laquelle la monarchie espagnole et le vice-roi de Mexico décident qu'il est urgent d'avancer encore plus au nord la colonisation espagnole, c'est parce que les Russes qui sont installés en Alaska, le nom Alaska lui-même est russe, c'était une colonie russe au départ, menacent de venir s'installer plus au sud. C'est aussi le moment de l'exploration du Pacifique par les Français, les Britanniques. Francis Drake donne le nom de Nouvelle-Albion à ce qui est aujourd'hui la Californie. Et se sentant menacé dans son intégrité territoriale, la monarchie espagnole décide de lancer ce nouvel élan de colonisation tardif à la fin du XVIIIe siècle.
Oui, en Uchronie, on pourrait rêver un pouvoir de Vladimir Poutine sur San Francisco, c'est ça?
Absolument. D'ailleurs, on pense que les projets effectivement d'indépendance de la Californie actuelle sont soutenus par des intérêts russes, disons, soit par le pouvoir, soit des cercles proches du pouvoir. Donc.
Alors bon, là c'est vraiment une permanence alors.
Alors, je ne sais pas si c'est une permanence, mais de fait, la Californie et la côte ouest, elle fait directement face à la côte est de l'Asie, à la Chine. Et c'est vrai que c'est un commerce qui est tout à fait convoité dès la fin du XVIIIe siècle. Les États-Unis qui viennent de prendre leur indépendance à la fin du XVIIIe siècle cherchent aussi à accéder aux richesses des Indes, hein, donc de la Chine, et accéder à du thé qui est précieux pour eux. Et c'est une des raisons pour lesquelles eux aussi vont s'intéresser au Pacifique, à l'Oregon, et à la Californie pour pouvoir accéder directement au commerce chinois.
Et en plus, on ne peut pas oublier qu'il y a les premiers habitants, c'est-à-dire des Indiens. Les Apaches, les Comanches.
Alors oui, alors j'ai dit que cette région commence à être colonisée par les Espagnols entre le 16e et le 18e siècle. Mais en réalité, s'il faut coloniser, c'est bien parce que les puissances souveraines jusqu'à très tard, ce sont les Amérindiens. On peut citer les sociétés les plus puissantes d'entre elles. On a parlé d'Empire Comanche, mais il y a aussi les Apaches. Et jusqu'après la guerre entre Mexique et États-Unis de 1846-1848, même pour les Apaches jusqu'à la capture de Geronimo en 1886.
Geronimo, c'est-à-dire le chef Apache.
Le chef Apache, ce sont des territoires qui sont largement dominés et sous souveraineté amérindienne. Et donc, peu importe que ce soit les Espagnols, les Mexicains ou les États-Unis qui revendiquent ces territoires-là, en réalité, ceux qui exercent leur puissance par des raids, des attaques répétées, qui affaiblissent les tentatives de colonisation des uns et des autres, ce sont ces puissances amérindiennes.
Vous évoquez 1836. Auparavant, il faut donner la date de l'indépendance du Mexique.
Oui, absolument. C'est donc 1821.
Et un moment où le Mexique a autorité sur le Texas.
Voilà, jusqu'en 1836, où le Texas prend son indépendance. Le Texas et tout le sud-ouest actuel états-unien est officiellement sous souveraineté mexicaine.
Donc les dates, c'est 1836, autonomie du Mexique, et ensuite les États-Unis s'emparent en 1848 du Texas, et en plus ils obtiennent en 1854, humiliation suprême, une modification des frontières nouvelles aux dépens du Mexique.
Oui, alors c'est toute une série de revers. Depuis les années 1835, les États-Unis se sont adressés au Mexique de manière diplomatique en leur faisant savoir qu'ils souhaitaient acquérir non seulement le Texas qui manifestait des volontés d'indépendance. L'indépendance du Texas est un problème complexe, Mais un certain nombre de Texans qui étaient des colons états-uniens souhaitaient davantage d'autonomie, notamment pour pouvoir amener leurs esclaves au Texas. Un certain nombre de ces colons étaient en effet des planteurs de coton. Or, le Mexique interdit l'esclavage en 1829. Également, suite à un certain nombre de soucis politiques, le Mexique se dirige vers un système moins fédéraliste et plus centralisateur à partir de 1835. Et les régions, les États fédérés, un certain nombre d'entre eux se rebellent contre cette volonté centralisatrice. C'est le cas du Texas qui déclare son indépendance. Et c'est aussi le cas de la Californie qui également déclare son indépendance, mais va revenir dans le giron mexicain en 1837.
Alors avant, il faut que nous évoquions un épisode resté fameux qui est celui de Fort Alamo. Les dirigeants mexicains auparavant, début des années 20, juste après l'indépendance du Mexique, s'inquiétaient déjà de l'opposition, de la présence concurrente des militaires mexicains au Texas et des missionnaires protestants. Un de leurs dirigeants, un des précurseurs de la diplomatie mexicaine, Simon Tadeo Ortiz de Ayala, écrivait qu'il y avait vraiment un risque d'opposition, que le comportement des militaires cruels et des missionnaires ignorants venus du Mexique sur la frontière nord risquait d'entraîner l'aliénation des groupes indigènes sur la frontière et les jette dans les bras des États-Unis. Il disait « Leur conduite n'est pas le meilleur moyen d'attirer de multiples nations. Quelle douleur de voir une guerre continuelle, coûteuse et sanguinaire contre des peuples, là il s'agit des Amérindiens, qui ne nous ont fait aucun mal au départ et qu'on appelle barbares parce qu'ils ne veulent pas se convertir par la force. » C'est un élément très important de l'opposition entre Amérique et Mexique. D'autant plus que par contraste, dit-il, les missionnaires protestants américains, avec leur bienveillance et leur douceur, civilisent, persuadent, se gagnent l'amitié de hordes innombrables, ce qui pourrait causer des maux incalculables dans nos provinces du Nord en cas de guerre avec cette République des États-Unis. La guerre va arriver et Fort Alamo est resté un moment mythique qui a été largement utilisé notamment dans les westerns pour faire de très beaux films. Écoutez donc cette chanson qui a été interprété il y a plus d'un demi-siècle par Johnny Cash en 1959 et qui s'appelle Remember the Alamo. Rappelez-vous du Fort Alamo. Nous allons l'écouter et après vous nous direz ce que Johnny Cash nous chante.
A 180 were challenged by Travis to die. Sword when the battle was nigh. Any man that will fight to the death cross over, but if you want to live, you better fly. And over the line with 179. Out from the battlements bloody and loud, with words of farewell from a garrison valiant and proud. Grieve not, little darling, my dying, if Texas is sovereign and free, we'll never surrender and ever with liberty be.
Souvenez-vous du Fort Alamo. On voit passer le chef de Mexique, qui est un personnage très autoritaire, Santa Anna. Salut Santa Anna, nous tuons tes soldats tout près du fort. Ces hommes se rappelleront le Fort Alamo de toute façon. Que s'est-il passé au Fort Alamo? Resté légendaire dans la mémoire américaine.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une défaite états-unienne, enfin une défaite texane, plus exactement.
Qui est restée glorieuse, ça évoque un peu Cameron, voilà. Aussi au Mexique, un peu plus tard.
Le Texas, c'est-à-dire les fédéralistes mexicains, texans et les esclavagistes colons états-uniens se sont alliés pour déclarer l'indépendance du Texas, pour se séparer de ce Mexique qui ne fait que les tourmenter et les empêche d'avoir des esclaves et d'avoir un pouvoir local fédéré.
Il n'y a pas que les missionnaires protestants pleins voilà. De douceur.
Et donc, ils proclament leur indépendance et le Mexique ne l'accepte pas. Ça nous rappelle, là encore, de l'histoire très récente entre la Catalogne et Madrid, n'est-ce pas? Et le Mexique envoie l'armée, avec à sa tête Santa Anna, pour écraser la rébellion texane. Et c'est ce qui donne cette bataille d'El Alamo.
Qu'est-ce que c'est que ce fort Alamo?
C'est un fort à la frontière.
Avec
à la
poignée.
Frontière, ce que les Texans considèrent comme leur frontière avec le Mexique, mais qui n'est pas reconnu par les États-Unis.
Avec une poignée d'hommes qui défendent.
Oui, alors si on se représente la frontière à cette époque-là, on n'est pas du tout dans cette activité relativement importante qu'on trouve aujourd'hui. Ce sont quelques forts disséminés à des centaines de kilomètres les uns des autres avec une garnison d'une centaine ou de quelques centaines d'hommes à peine. Donc on est dans des escarmouches internationales qui ont des retentissements importants, mais avec très peu de personnes impliquées. Dans la chanson sont mentionnées
que dit la chanson
180 personnes qui défendent ce fort et qui sont tuées peu à peu par les armées de Santa Anna. Mais les Texans se défendent de manière très courageuse, comme le décrit la chanson, à tel point que les soldats qui sont présents à El Alamo se souviendront toujours de cette violence et du courage des Texans, pardon, qui défendent leur fort et leur pays, puisqu'ils viennent de déclarer l'indépendance.
Et symboliquement, le chef Travis a tracé une ligne avec son épée dans le sable.
Ce qui est intéressant aussi dans le texte de cette chanson, c'est que les Texans sont présentés comme défendant la liberté. Le Texas est souverain et libre, ne se rendra jamais et la liberté vivra pour toujours. Et donc les Mexicains, là, sont présentés comme opposants à la liberté qui est depuis l'indépendance, le signe distinctif des États-Unis et donc présente déjà le Texas comme faisant presque déjà partie des États-Unis alors que il vient juste de déclarer son indépendance. Ils vont faire des démarches très rapidement pour essayer d'intégrer les États-Unis, mais ce ne sera pas le cas avant 1846. Et ce sera un des déclencheurs, en fait, de la guerre entre Mexique et États-Unis en 1846.
Avec le recul, on peut observer que il y a une sorte de mouvement inverse de celui d'aujourd'hui, que ce sont les Américains qui viennent progressivement, les Américains des États-Unis qui viennent progressivement occuper le Texas. D'ailleurs, Tocqueville, dans sa Démocratie en Amérique, écrivait à propos du Texas en observant qu'il y avait ce mouvement d'immigration. Il disait, on peut prévoir que si le Mexique ne se hâte pas d'arrêter ce mouvement, la province ne tardera pas à lui échapper. C'est bien ce qui est arrivé.
Alors oui, c'est ce qui est arrivé d'une certaine façon, ce qui est oui ironique en rétrospective, c'est que à l'époque, les immigrants illégaux qui franchissaient la frontière Mexique-États-Unis et qui s'installaient dans les territoires mexicains étaient ceux qui étaient illégaux, pas reconnus par les autorités. Certains d'entre eux ont pu obtenir des terres, mais c'était à condition de se convertir au catholicisme, notamment. Et un certain nombre, en fait, ne faisaient pas les démarches nécessaires de se déclarer, de se convertir, etc. Et donc un certain nombre étaient effectivement les clandestins de l'époque. Ce qui est intéressant sur cette colonisation, c'est que au départ, notamment au Texas, c'était une politique d'abord de l'Empire espagnol, puis du Mexique. Ils voulaient renforcer la sécurité de leurs frontières en la colonisant, en la peuplant. Ils ne parvenaient pas forcément à trouver dans leurs propres forces démographiques des personnes qui iraient emménager dans ces territoires menacés par les Apaches et les Comanches. Et donc, ils ont encouragé eux-mêmes l'immigration et la colonisation états-unienne. Ça s'explique aussi, on le voit dans l'extrait que vous avez lu de Ayala, qui est que il y avait une admiration pour le modèle états-unien. Il s'était érigé en modèle. On peut reprendre la situation, oui, si loin de Dieu, si proche des États-Unis, mais les États-Unis étaient quand même un modèle à l'époque. Et donc, la question religieuse agitait beaucoup le Mexique à cette époque-là. La place des missionnaires dans la colonisation était remise en cause en disant qu'effectivement, ils forçaient les Indiens à travailler, ils les battaient, ils les convertissaient par la force. En fait, les missionnaires protestants y allaient avec plus de douceur. Et donc, il y avait véritablement une admiration pour ce modèle états-unien qui étaient pourtant dangereux pour leur intégrité territoriale.
Donc du côté du Mexique, un mélange de fascination et d'inquiétude, d'admiration et de frustration. Avec une frustration qui est encore accrue lorsqu'en 1854, il y a une nouvelle rectification de frontières avant que nous en arrivions à cette délimitation qui aujourd'hui est au cœur des réflexions de Donald Trump et de quelques autres.
Pour ce qui concerne l'angoisse et l'admiration, quand de plus en plus d'États-Unis arrivent à la fin des années 1840 dans la région de San Francisco, un Californien qui s'appelle Guadalupe Vallejo se surprend à voir ces États-Unis qui sont prêts à même construire un escalier pour aller vers le ciel et les étoiles. Donc c'était il préfigurait Led Zeppelin d'une certaine façon avec son Stairway to Heaven, son escalier vers le ciel, pour dire à quel point les États-Unis étaient entreprenants et qu'il serait difficile de les arrêter. Et effectivement, la frontière connaît donc cette première modification, d'une part avec l'annexion du Texas en 1846, qui est déclencheur de la guerre. Ensuite, le traité de Guadalupe Hidalgo en 1848, à la fin de la guerre, qui intègre tout ce qui était la Haute-Californie mexicaine, et donc qui en fait est la Californie, le Nevada, l'Arizona, et intègre aussi donc le Nouveau-Mexique.
Après la victoire des Américains.
Après la victoire des États-Unis, qui sont allés jusqu'à Mexico, il y avait même une pression très forte d'une certaine fraction de l'opinion publique états-unienne pour carrément annexer tout le Mexique. All of Mexico, annexant tout le Mexique. En fait, le diplomate envoyé par le gouvernement désobéit aux ordres de prendre le plus du Mexique possible en conservant la frontière presque actuelle.
Qui désormais est fixée. Il faut savoir que le Mexique, rappelait que le Mexique avait perdu 2/5 de sa superficie originelle.
Oui.
Et ce traumatisme reste encore présent pour qui s'attache, comme nous le faisons aujourd'hui, Emmanuel Pérez Tisserand, à l'histoire de la frontière entre les deux pays. Frontière d'ailleurs. Il faut peut-être observer à cette occasion que le mot de frontière en français peut avoir deux traductions. En anglais, ça peut être border et ça peut être frontier.
Oui, il y a une très importante différence entre les deux dans l'imaginaire états-unien. Bon, pour nous, en Europe, une frontière, on voit très bien ce que c'est comme entre la France et l'Espagne, par exemple, cette barrière naturelle des Pyrénées. C'est une ligne fixe qui n'a pas bougé depuis un certain nombre de siècles. Or, aux États-Unis, ça, c'est border. C'est ce qui borde un pays par rapport à un autre. Le mot frontier, il a un tout autre sens. On le retrouve d'ailleurs dans un certain nombre de noms de voitures, de marques, etc. Frontier, c'est les grands espaces, la confrontation de l'homme civilisé à la sauvagerie, et c'est ce qui va le rendre plus courageux et qui met en valeur aussi le caractère particulièrement américain du Nouveau Monde. Un Européen un peu faiblard, un peu urbain, qui a peur de tout, qui ne sait pas se débrouiller dans la vie, au contact avec la sauvagerie, la nature, les attaques indiennes, le devoir de se débrouiller par soi-même parce qu'il est seul face à cette sauvagerie, le rend américain, c'est-à-dire cet homme courageux qui sait se débrouiller tout seul, sait affronter la vie et n'a besoin de personne, et en particulier pas de l'État. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui reste encore très fort dans l'imaginaire états-unien. Et aussi, quand cette conquête de l'Ouest ça a été terminé, ça a généré une angoisse assez forte parmi les Américains qui se sont dit oh, « Mais si la frontière faisait de nous des Américains, ça c'était ce que disait Frederick Jackson Turner, l'historien de la fin du 19e siècle, si cette frontière déclarée fermée en 1892 par le Bureau du recensement est terminée, oh, comment allons-nous rester spécifiquement Américains? Qu'est-ce qui fait de nous encore des êtres exceptionnels ?» Alors ils ont trouvé un certain nombre de solutions. Ouvrir des parcs nationaux pour avoir des réserves de nature ou exercer leur esprit américain, ou encore aller faire des aventures outre-mer, la conquête des Philippines, la guerre avec l'Espagne, et enfin donner une dimension symbolique à cette frontière, c'est la nouvelle frontière de Kennedy. Ok, nous avons rencontré des défis dans le passé, mais nous allons en construire de nouvelles frontières à l'avenir. Et on peut aussi en faire une frontière qui dépasse notre propre planète, avec l'idée de la conquête de l'espace, par exemple.
Avec une opposition donc très nette entre cette nouvelle frontière, aller ailleurs toujours pour entraîner, au nom de la destinée manifeste de l'exceptionnalité américaine, le peuple toujours plus loin, et puis au contraire la coupure désormais de plus en plus présente entre Mexique et États-Unis, une coupure qui, au XXe siècle, va prendre toute sa force. Écoutons donc cet extrait d'un reportage télévisé, La police des frontières, autour d'El Paso, qui est au centre, évidemment, de cette frontière. C'est Jacques Salbert qui fait ce reportage dans Paris à l'heure de New York, 1969. Et le réalisateur, l'excellent réalisateur, est Claude Fayard.
Nous sommes dans le sud, dans le Texas, au milieu du désert. Ce désert qui marque la frontière avec le Mexique pendant plus de 1500 km de long. Un désert où poussent juste des petits arbustes secs qui seraient même incapables de nourrir une chèvre. Quant à la frontière, eh bien elle est très vague. Elle est quelque part derrière nous, au milieu de ces montagnes. Elle n'est même pas jalonnée. Nous sommes dans les environs immédiates d'El Paso. Welcome to El Paso. Bienvenue à El Paso. C'est peut-être vrai pour les touristes, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. El Paso, ce qui signifie en espagnol la passe, a toujours été le point de passage de prédilection des contrebandiers de toutes sortes. On les appelle ici, depuis de nombreuses années, les dos mouillés. Car pour franchir clandestinement la frontière, le meilleur moyen était autrefois de traverser le Rio Grande à la nage. El Paso est une ville sans charme particulier, un peu anonyme, comme toutes les villes américaines. C'est une cité commerçante qui se développe rapidement, et le signe extérieur de ce développement, ce sont les gratte-ciels qui, sans être aussi impressionnants que ceux de New York ou de Chicago, sont toujours aux États-Unis l'indice de la prospérité économique. De l'autre côté de la frontière, El Paso a sa ville jumelle, Juarez. 5 kilomètres seulement séparent les deux villes. Mais ici, c'est toute une autre civilisation, tout un autre genre de vie. Et la pauvreté mexicaine contraste de façon criarde avec la prospérité toute voisine de l'Amérique.
Voilà que sont bien posées devant nous, est bien posée la différence majeure, quelque sorte constitutive, entre les deux pays. Et cette opposition est un des éléments de leur affrontement, de leur incompréhension souvent, et en même temps explique des liens très intimes.
Certains disent même que la frontière et les communautés qui l'entourent forment presque un troisième pays, un tiers pays entre Mexique et États-Unis, dont la capitale serait justement El Paso et Ciudad Juárez.
Parce que c'est aussi leur différence qui explique pourquoi ils ont besoin l'un de l'autre.
Il y a une forte complémentarité, et puis cette zone qui est quand même très désertique, elle n'avait pas de raison en fait d'être particulièrement développée et d'être un endroit qui attire des développements économiques, mais c'est justement la communication entre États-Unis et Mexique qui peut avoir lieu à partir de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle grâce donc d'une part à la fin des guerres indiennes, donc on a parlé de la capture de Geronimo, le chef Apache en 1886, et donc après ça il y a davantage de facilité à s'installer dans cette région. C'est un moment aussi politique particulier, celui de Porfirio Diaz qui de manière assez forte à la tête du pays encourage le développement économique de cette région et les liens avec les États-Unis. Il favorise l'installation d'entreprises états-uniennes qui sont très intéressées par les ressources minières du nord du Mexique, en Sonora, en Chihuahua, etc. Et vous avez le développement d'un réseau ferré interfrontalier, donc qui traverse la frontière et qui permet d'amener les capitaux et le matériel au Mexique et ensuite de ramener les ressources minières aux États-Unis. Et
vous évoquez l'état de Chihuahua, on peut rappeler. C'était quand même, de la part des États-Unis, le signe de beaucoup de morgue qu'à deux reprises, les armées américaines ont occupé un morceau du Mexique, à Veracruz en 1914, et dans l'état de Chihuahua en 1916-1917, pendant 9 mois.
Oui, alors ça c'est le contexte doublement particulier de la révolution mexicaine dans les années 1910, qui a renversé
Porfirio
Diaz, et de la Première Guerre mondiale, de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale.
Les Allemands avaient essayé, c'était un des éléments qui a permis à Wilson d'entraîner son pays dans la guerre auprès des Français et des Anglais. Ils avaient essayé de provoquer une attaque du Mexique contre les Américains, contre
absolument,
les États-Unis.
Oui, les Allemands ont essayé de capitaliser sur le traumatisme qu'avait constitué la guerre États-Unis-Mexique et la perte de tout ce territoire pour leur proposer de s'allier en guerre avec eux contre les États-Unis, avec comme but de guerre la récupération de ce territoire. Encore une uchronie, si on veut, le Mexique.
Uchronie, c'est-à-dire l'histoire fiction.
Voilà.
Que se serait-il passé si?
Exactement, que se serait-il passé si le Mexique était entré en guerre auprès de l'Allemagne contre les États-Unis. En fait, le Mexique était encore dans les conséquences de sa propre révolution et avait quand même peu d'affinité avec l'Empire allemand. Mais ça a été l'occasion pour les États-Unis d'un intervenir sur sa frontière pour se protéger. On sait que les guerres sont un moment particulièrement favorable, si on veut, de renforcement des frontières et de renforcement du rôle de l'État au nom de la sécurité.
Et en même temps, on voit ce 20e siècle, par comparaison avec le 19e, on voit durant ce siècle se multiplier les relations de différentes natures. Se développe le tourisme, par exemple.
Alors oui.
Le pétrole, il y a les émigrés, tout ce qui apporte de l'argent au Mexique, de l'argent neuf qui n'existait pas auparavant, donc les touristes, le pétrole, le retour aussi de l'argent des émigrés aux États-Unis, et puis les produits de contrebande. D'ailleurs, là, on retrouve la porosité de la frontière.
Oui, alors vraiment, c'est un moment où à la fois la frontière est tracée, enfin, pas forcément toujours. On voit que dans le reportage, elle n'est toujours pas jalonnée en 1969. En fait, il y avait eu des entreprises de jalonnage, mais on est dans un endroit où il y a des montagnes, où il y a des déserts. C'est très difficile de marquer la frontière, surtout quand on passe à l'ouest du Rio Grande, que les Mexicains appellent Rio Bravo, rappelons-le. Et donc, il y a des circulations qui se font de part et d'autre et une forte complémentarité. Par exemple, pendant la Prohibition, c'est-à-dire pendant ce moment entre 1918 et 1933 où il est interdit de vendre et donc de consommer de l'alcool aux États-Unis, que font les habitants des États-Unis qui habitent pas trop loin de la frontière? Ils passent de l'autre côté de la frontière, et même un certain nombre d'États-Unis ouvrent des tripots et des bistrots pour leurs concitoyens, pour qu'ils puissent venir s'abreuver. Et c'est en même temps un moment où, du coup, le Mexique, avec ses lieux de loisirs et de plaisirs, est construit comme un endroit particulièrement immoral en comparaison avec les États-Unis qui sont protestants et eux moraux puisqu'ils ont interdit la consommation d'alcool.
On retrouve toujours l'opposition protestantisme et catholicisme.
Alors on retrouve celle-là.
Une composante permanente.
Oui, absolument. Et c'est aussi un moment où, en 1924, les États-Unis instaurent des quotas d'immigration pour essayer de limiter l'immigration venant d'Europe de l'Est, d'Europe du Sud et de Russie. Par contre, l'Amérique latine n'est pas touchée, non pas parce qu'ils sont vus comme des citoyens particulièrement désirables, mais parce qu'on désire leur force de travail. Déjà à cette époque, le Mexicain du nord du Mexique est convoité pour sa force de travail très peu chère. Et donc, on voit le Mexicain comme quelqu'un qui va venir, mais de manière temporaire, qui ne va pas devenir citoyen, qui ne va pas devenir habitant permanent. Et donc, on n'en a pas peur, en fait. On contrôle ces allées-venues, on s'assure qu'elles soient temporaires. Mais, en fait, s'il y a des postes de douane qui embêtent beaucoup les éleveurs et d'autres personnes qui ont besoin de faire circuler des marchandises, c'est surtout parce qu'il faut se rendre à un poste de frontière, qu'il faut payer des taxes, parce qu'à l'époque aussi, on est au tout début de l'instauration de l'impôt sur le revenu, mais les revenus principaux des États, c'est les droits de douane. Et donc, c'est surtout ça qu'on surveille.
Cette main-d'œuvre à bon marché, les Américains du Nord, les États-Unis vont aussi la chercher de l'autre côté de la frontière, au Mexique, avec la fondation de ce que on appelle les maquiladores, c'est-à-dire des entreprises états-uniennes qui vont s'installer de l'autre côté de la frontière au Mexique. C'est un des éléments des relations.
Oui, voilà,
entre économique et aussi psychologique par conséquent.
Oui, voilà, c'est une forme, si on veut, de colonisation économique qui tire parti de la grande différence des salaires et même de régulation sur le travail et qui permet de s'installer tout proche des États-Unis et donc des consommateurs et à la fois avec une main-d'œuvre très peu chère.
On préfère aller la chercher sur place. En Mexique, ça provoque moins d'inconvénients aux yeux des États-Unis que ces immigrants qu'on a longtemps cru destinés à revenir chez eux et qui très souvent s'installent. Et d'ailleurs, récemment, les Américains ont développé une offensive de propagande par le truchement de la chanson pour détourner les jeunes Mexicains de venir clandestinement chez eux en franchissant la frontière. La bestia, le train de la mort, la bestia, la bête. Écoutez cette chanson récente, elle remonte à 2014.
Tranquila, otra vez con gente arriba. Se escuchan por donde quiera plegarias y más plegarias. ¿Cuántas familias se quedan separadas, destrozadas? Sola esperanza que realicen su cruzada. Ay, qué tristeza se siente cuando miras de pasada que se te muere. que solazo tan caliente y que fría es la madrugada. Ya no soporto el hambre y para beber no hay agua. De la vida ese es el precio. Al que orilla nuestro gobierno.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney.
Cette chanson a été diffusée abondamment sur les radios mexicaines et les radios d'Amérique centrale aussi. Et on ignorait que c'était la propagande américaine qui pourvoyait, que c'était l'organisme de contrôle des frontières qui cherchait à freiner l'afflux des migrants. Que nous dit cette chanson ?
Alors, donc, cette chanson décrit la détermination d'un certain nombre de jeunes gens, en l'occurrence, qui montent au-dessus des trains pour se rendre vers le nord.
Ça évoque un peu les camions de Calais à Angleterre.
Voilà, exactement, aujourd'hui. C'est le même principe. Hein, c'est-à-dire, la chanson décrit ces personnes qui sont sur les trains et qui décrit les familles qui restent sur place et qui des familles qui sont séparées et détruites par cette séparation. Et donc, la chanson décrit aussi la situation très difficile qu'ils vont rencontrer et que... loin d'être le paradis qu'ils espèrent, ce sera l'enfer en réalité. Effectivement, ça fait partie du répertoire d'action des forces de contrôle de l'immigration. Alors, il y a le mur que veut Donald Trump, mais il y a aussi le découragement des départs. Et là, en l'occurrence, effectivement, si cette chanson est de 2014, c'est une période qui a vu une crise humanitaire importante puisque la Border Patrol, cet organisme qui contrôle la frontière, a constaté l'arrivée très jeunes migrants, des mineurs, des enfants non accompagnés qui arrivaient à la frontière et ne sachant pas quoi en faire. C'était surtout des migrants qui venaient d'Amérique centrale, hein, des pays où il y a parfois une violence très importante. Et ce qu'on constate aujourd'hui avec une traversée de plus en plus difficile entre le Mexique et les États-Unis, c'est qu'en fait le Mexique devient un pays non plus de passage mais de destination pour ces migrations qui viennent d'Amérique centrale. Un autre chiffre qui est intéressant, je crois, dans le contexte actuel, c'est que il y a davantage aujourd'hui d'immigrants mexicains qui reviennent au Mexique que de migrants qui passent la frontière vers les États-Unis. Donc on n'est pas dans une situation de crise réellement migratoire.
Avec tout de même une différence démographique formidable entre les débuts du XXe siècle et aujourd'hui, puisqu'en 1910, il n'y avait que 2 millions d'Américains qui étaient nés au Mexique, alors qu'en 2017, 11 millions d'Américains sont nés au Mexique. Un tiers des Américains nés à l'étranger viennent du Mexique.
Oui, de certains conservateurs qui alimentent aussi la campagne de Trump, qui sont dans son entourage, craignent même ce qu'ils appellent une reconquête, une reconquista. Ils utilisent ce mot-là dans les forums de l'alt-right, donc de cette droite alternative qui a nourri la campagne et l'élection de Donald Trump, avec cette panique identitaire sur le fait que sur le multiculturalisme états-unien qui s'appuie sur ce passé mexicain d'une partie des États-Unis, c'est-à-dire que ils le comparent carrément à une invasion militaire, mais par le biais de la démographie.
Et éventuellement langagière même, l'idée que, un peu fantasmatique qu'un jour on parlera en majorité espagnol aux États-Unis.
Alors oui, après c'est vrai que dans un certain nombre d'endroits, les panneaux sont bilingues, on peut très facilement parler espagnol aux États-Unis. Maintenant je connais aussi un certain nombre de descendants d'immigrants mexicains qui ne parlent pas un mot espagnol.
Tout à l'heure, Jacques Salbert, dans le reportage que nous avons diffusé, évoquait l'opposition entre El Paso et Juarez, Ciudad Juarez, qui est aujourd'hui un des lieux du monde marqué par le plus de violence. Cette différence-là reste très forte et emblématique de la différence entre les deux pays lorsqu'ils se retrouvent sur la frontière, cette frontière dont nous parlons aujourd'hui dans cette émission.
Alors quelque chose qui est très important quand même pour comprendre la militarisation de la frontière et cette violence qui s'exerce, c'est la question du trafic de drogue et la place des cartels en fait dans le nord mexicain. C'est une région qui effectivement est très dangereuse et violente, non pas parce que les Mexicains seraient naturellement violents comme de le croire Donald Trump, mais parce qu'effectivement il y a d'énormes enjeux financiers autour du trafic de drogue dont les consommateurs sont aux États-Unis. Donc une des raisons pour lesquelles la violence des cartels s'exerce, c'est aussi parce que il y a un marché marché très juteux des consommateurs de drogue aux États-Unis.
Marijuana notamment, c'était l'alcool dans les années 20 au moment de la prohibition, aujourd'hui c'est la drogue.
Voilà, donc encore une fois on est face à cette construction où le Mexique est vu comme l'endroit particulièrement violent et immoral parce que c'est là d'où vient la drogue, alors que les consommateurs eux sont états-uniens, donc on est ici dans cette construction. Et c'est vrai que dans le cadre de ce qu'on a appelé la guerre contre la drogue, les autorités fédérales états-uniennes ont fait passer des armes et prêté main forte, y compris matériellement, aux autorités mexicaines. Et les armes sont parfois tombées dans trop de mauvaises mains. Ça a aussi encouragé une course à la violence. Plus on est armé d'un côté, plus on va s'armer de l'autre. Sans compter effectivement la corruption, puisque les fonctionnaires de police et de contrôle mexicaines ne sont pas toujours très bien rémunérés. Et donc parfois, la corruption par les cartels de la drogue est plus intéressante. Donc on a toute cette question-là de la violence qui vient de ce trafic juteux. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a aussi eu l'idée au départ de construire ce mur pour éviter ce trafic de drogue. Et maintenant, pour contourner ce mur, on a les fameux tunnels qui passent en dessous. Et c'est une des raisons pour lesquelles les prototypes commandés par Donald Trump doivent être suffisamment profonds pour éviter le creusement de tunnels.
Des tunnels parfois si larges que des véhicules peuvent y passer.
Absolument, oui, les véhicules transportant donc la drogue et parfois les immigrants en situation irrégulière.
Dès le temps de la présidence de Nixon, on avait lancé en 1969 une opération d'envergure pour renforcer la frontière. Ça ne date pas de, contrairement à ce qu'on croit souvent, ça ne date pas de Donald Trump uniquement. C'est une histoire, comme nous le disions tout à l'heure, progressive, avec cette ambivalence constamment, la frontière comme lieu de passage qui peut être contrôlé et qui peut avoir des avantages d'un point de vue économique, et comme frontière, séparation des deux peuples face à face. La manière dont les choses sont vécues sur place, on peut la donner à ressentir avec les deux archives que vous allez entendre. D'un côté, l'interview d'un shérif, Joey Arpaio, en Arizona. C'est un extrait de l'émission Interception de Fabienne Synthèse sur France Inter en mai 2008. Et puis ensuite, je vais vous faire entendre le point de vue des migrants mexicains. Mais d'abord, le shérif.
Dans le cadre de notre mission, quand on arrête quelqu'un pour violation du code de la route ou toute autre infraction, et nos officiers savent comment poser les bonnes questions, plus de 160 d'entre eux ont été entraînés par les services de l'immigration. On le fait, et il n'y a aucune loi qui interdit de demander à quelqu'un d'où il vient. On le fait, et si on découvre qu'il est en situation irrégulière, que ce soit le conducteur ou le passager, on l'arrête. Donc, si vous avez un passeur qui a été payé par des gens qui veulent entrer dans le pays, ces gens savent qu'ils ont violé la loi. Ils devraient le savoir, en tout cas. Il y a une loi fédérale que personne ne respecte. Toute personne qui passe illégalement la frontière est passible de 6 mois de prison. Certaines personnes, des activistes, n'aiment pas ce que je fais. Ils me traitent de tout. Hitler, KKK, Nazi, Hitler, Ku Klux Klan, je m'en fous. Nous n'avons pas eu d'ennui jusque-là. Nous avons une ligne ouverte dans tous nos véhicules. Et on demande aux gens de nous appeler. On a eu 3500 appels jusque-là qui nous ont permis de multiplier les arrestations. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes arrêté par la police? On appelle les services de l'immigration qui renvoient gratuitement les illégaux au Mexique. Moi, je ne fais pas comme ça. Je les mets en prison au nom de la loi de l'État d'Arizona.
C'est un intéressant éclairage, n'est-ce pas, Emmanuel Perez-Tisserand, sur un état d'esprit des forces de répression?
Oui, tout à fait. Alors là, on est tout avec Joe Arpaio, on est dans quelqu'un qui est un représentant idéal de l'Amérique trumpienne. C'est le shérif qui fait la loi sur sa frontière, qui déploie des trésors d'ingéniosité, qui est très fier de pouvoir arrêter le plus de migrants possible.
Indifférent aux critiques traitant de nazis ou de Ku Klux Klan.
Oui, au contraire, il en serait presque fier en réalité, parce que il est le représentant de cette Amérique fière d'être ce qu'elle est, sans repentance, et qui s'appuie sur aussi les citoyens individuels. Il reçoit les coups de fil des personnes qui disent « Ah, j'ai vu des migrants, là, ils sont louches, allez les arrêter ». Donc on est dans cette dynamique de la frontière dont on parlait tout à l'heure.
C'est-à-dire le western,
allez, c'est parti, on n'est plus à cheval, mais on est sur notre pick-up, et on va aller à la poursuite des migrants en s'appuyant sur les ressources locales, et non pas les services d'immigration plus particulièrement, mais on va les mettre en prison, quoi, comme dans Lucky Luke, comme dans les westerns. On se déplace débrouille sur place et on arrête le plus de migrants possible. Il faut citer que Joe Arpaio, qui a justement été condamné pour ses agissements un petit peu au-delà de la loi concernant l'immigration mexicaine, a été gracié par le président Donald Trump pour ses agissements. Donc Donald Trump soutient ce type d'initiative.
Vous le connaissiez, ce
Oui, c'est quelqu'un d'assez connu, en fait, parce qu'il a été gracié par Donald Trump. Il est le représentant de cette Amérique qui est, selon Donald Trump, brimée par le multiculturalisme, par le politiquement correct, et qu'il faut soutenir en le graciant, en lui adressant son pardon présidentiel. Et ce qui est intéressant aussi sur ce sujet-là, c'est que c'est un des moyens de résistance que veulent développer des États qui s'appellent sanctuaires, c'est-à-dire qu'ils veulent résister à la politique d'immigration de Donald Trump, en essayant de déconnecter les services fédéraux des services fédérés et locaux. Par exemple, les États qui veulent protéger leurs immigrants, en estimant que les immigrants font des contributions à la société, comme la ville de Los Angeles ou de San Francisco ou l'État de Californie.
Qui sont vent debout contre Donald Trump.
Qui sont vent debout contre Donald Trump, d'une part parce qu'ils sont démocrates et d'autre part parce que, encore une fois, ils soutiennent la contribution des immigrants à l'économie et à la société états-unienne. Ils ont décriminalisé un certain nombre de choses, notamment, par exemple, le commerce informel de rue, parce qu'ils savent que si un immigrant en situation irrégulière qui pratique souvent ce genre d'activité est arrêté, il risque d'être dénoncé auprès des services d'immigration et déporté ou mis en prison. Et donc, il y a des politiques de résistance, en fait, des villes locales. Donc là, le fédéralisme joue à ce niveau-là. Et donc là, on voit par contre que Arpaio met au contraire le fédéralisme au service d'une plus grande répression à la frontière.
Alors, il faut écouter la voix des migrants. J'en ai choisi quelques-uns. C'est un extrait de l'émission Reporter de Philippe Reltien, qui était à l'époque correspondant de France Inter, de Radio France, aux États-Unis. C'est une émission du 30 octobre 2008. Écoutez ces migrants mexicains, leurs aspirations et leurs misères.
La nouvelle frontière avec le Mexique, conçue pour freiner l'immigration, est une paroi métallique avec capteurs et caméras de 1000 km de longueur et de 4 mètres de hauteur. Nous l'avons traversée à pied à Nogales.
Buenos días.
Comment tu t'appelles?
Eric.
Toi aussi, tu veux aller de l'autre côté?
Non, porque me regañan.
Non, parce qu'ils vont m'attraper.
L'envers du décor, nous le découvrons peint sur le mur côté mexicain. 1000 morts inutiles dans le désert, comme cette petite fille ligotée dans un linceul, ou cet homme qui marche avec sa machine à laver sur le dos, ou encore Marco Antonio, cueilleur de coton, rescapé de la soif.
On a marché une semaine et on n'avait plus d'eau. On buvait la même eau verdâtre que boivent les vaches. Et avec nos mains, on écartait la vase pour que ça sente moins mauvais. On avait tellement soif. Finalement, on s'est rendu à la police des frontières pour un peu d'eau.
Le passage peut coûter 4 000 $. Walt Staton est bénévole pour l'association No More Deaths, plus de morts.
En général, ils marchent à 20 ou 30 avec le passeur. Si vous êtes malade ou blessé, vous allez moins vite et ils vous laissent derrière. Et parce que ça leur a coûté tellement cher, les autres continuent. On a trouvé un type comme ça, par 38 degrés. Il n'avait rien bu ni mangé depuis 3 jours. À moitié inconscient. On l'a mis à l'arrière du pick-up et on a foncé, tout en appelant l'ambulance. Je crois que 24 heures de plus et il y passait.
Alors d'une part, les immigrants mexicains, contrairement à ce qu'en dit Trump, ceux qui arrivent aux États-Unis ne sont pas les plus pauvres, les plus misérables d'entre eux, parce qu'il faut quand même un certain nombre de ressources pour faire le voyage et se déplacer. C'est des gens qui sont, comme dans tous les cas de migration, assez débrouillards pour se rendre sur place.
Et payer les passeurs souvent.
Passeurs qui sont extrêmement coûteux et parfois qui, d'ailleurs, vous plantent en plein désert en empochant votre argent. Ce qu'on voit aussi, c'est que il y a une telle volonté de monter vers le nord, de traverser, que ce ne sont pas les obstacles qui sont mis entre eux et les États-Unis qui vont les empêcher, et qu'au contraire, ces flux restent les mêmes, et c'est juste qu'une proportion plus importante va être illégale si la législation sur l'immigration est plus dure. Et donc, une des critiques qu'on peut faire peut-être sur l'idée de mur, c'est que de toute façon, il sera franchi, et que c'est probablement occasionner un nombre de morts encore plus important et une misère de plus en plus importante en mettant ces obstacles à l'immigration.
C'est ce que le président mexicain, d'ailleurs Nieto, a fait largement valoir dans ses propos publics et dans ses conversations avec Trump, d'après ce qu'on en sait.
Oui, il a refusé déjà de financer ce mur, Donald Trump avait promis que ce serait le Mexique qui paierait. Pour l'instant, le Mexique ne paie pas. Et le Congrès, qui doit autoriser les fonds pour la construction du mur, est très délicat, puisque un des maîtres mots quand même des républicains au pouvoir, c'est de faire le moins de dépenses possible, même si en général les dépenses pour l'armée se multiplient sous les républicains. C'est vrai que la situation budgétaire posera problème pour la construction de ce mur. Et puis, est-ce que c'est vraiment le moyen le plus efficace? On peut en douter. L'histoire montre que la construction de murs n'a pas forcément été le moyen le plus efficace de traiter cette question de l'immigration.
Il reste aussi de l'histoire une autre donnée permanente, durable, c'est la question des Amérindiens.
Absolument. Une des autres difficultés auxquelles va faire face Donald Trump et son gouvernement pour construire le mur, c'est la question des droits de propriété. Le gouvernement vient de produire un rapport sur la difficulté qu'il y aurait à construire ce mur. Un certain nombre de territoires, ce sera facile, puisque un très grand nombre de territoires à l'ouest sont des terres fédérales. Donc possèdent déjà la terre. Il y a comme en Europe une possibilité d'expropriation pour les propriétés privées. Néanmoins, la propriété privée, elle est sacrée aux États-Unis.
Plus encore qu'en Europe.
C'est un trait identitaire fort qui s'est accentué encore pendant la guerre froide, puisqu'il s'agissait de s'opposer au communisme. Et d'ailleurs, toujours aujourd'hui, on accuse de socialisme ou de communisme toute volonté d'aller à l'encontre de la propriété privée.
Donc exproprier pourrait être un acte communisant.
Exactement, ce qui, évidemment, pour l'électorat à Donald Trump serait un problème, puisqu'ils sont anticommunistes également. Et l'autre problème, c'est qu'un certain nombre de terres passent au milieu de territoires historiquement amérindiens.
Des réserves
et des territoires qui sont considérés comme les leurs. Et les Amérindiens s'opposent à la construction de ce mur qui couperait leurs réserves en deux. Et donc, il y a probablement un défi là pour l'administration de se confronter à cette législation. Il y a d'autres législations qui vont poser problème pour la construction du mur. C'est des législations environnementales. Et là, l'État de Californie fait déjà un procès au gouvernement fédéral parce que le gouvernement fédéral a accepté pour la construction des prototypes et la future construction du mur de ne pas suivre des régulations environnementales.
On a l'impression que le président Trump, c'est pas une révélation, n'est pas extraordinairement préoccupé par les soucis de l'environnement ou de l'écologie ou de l'avenir de la planète.
Absolument. Le problème, c'est qu'il y a quand même quelques lois et quelques réglementations aux États-Unis concernant l'environnement qu'il a autorisé pour la construction du mur à ne pas respecter cette régulation, mais que l'État de Californie fait un procès contre l'État fédéral pour ce non-respect de la réglementation.
Défense, par exemple, des papillons, nous dit-on.
Absolument. C'est-à-dire que sur la frontière, il y a un lieu de migration et de développement d'espèces de papillons assez rares. Il y a un centre fédéral de la nature qui protège ces papillons. Et il pourrait là encore y avoir une attaque juridique sur le fait que ces papillons, après la construction du mur, ne pourront pas le franchir parce qu'ils ne volent pas assez haut. Le mur que veut construire Trump sera assez haut, environ 9 ou 10 mètres. Et donc, les papillons ne pourront plus aller se reproduire ou passer l'hiver de l'autre côté de la frontière. Et c'est une espèce très rare de papillons. Et donc, peut-être que ce sont les papillons qui permettront la non-construction de ce mur.
Trump contre les papillons, on pourrait en faire une bande dessinée.
Un nouveau western.
Eh bien, merci beaucoup. Votre thèse, Emmanuel Pérez-Tisserand, va paraître prochainement aux presses universitaires de Rennes. Excellente collection, excellent éditeur. Elle sera consacrée à l'histoire de la Californie au début du 19e siècle. Et puis, la bibliographie étant assez limitée en français, il faut citer le livre en anglais de Rachel St. John, qui s'appelle « Line in the Sand », la ligne dans le sable, une histoire des relations de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. C'est un livre qui est paru chez Princeton en 2011, où on trouve beaucoup d'informations précieuses. Vous pourrez trouver donc des éléments bibliographiques complémentaires sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, écouter, réécouter et podcaster cette émission pour la conserver dans la longue durée et confronter ce que nous avons dit à l'avenir de l'influence de M. Trump sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Samedi prochain, nous parlerons de l'apport des pays d'islam à l'humanisme et à la renaissance dans les pays occidentaux. C'est un rappel qui n'est pas inutile par les temps qui courent. Et je recevrai pour en parler le très bon spécialiste
qu'est le médiéviste Joël Chandelier. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur avec aussi Jeanne Guérou, une émission réalisée comme chaque samedi par Anne Kobilac, avec à la prise de son Bernard Laniel, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Arnaud Plançon. Et maintenant, je passe le relais à Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.